RBE. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, le vaccin Pfizer efficace à 95,8%. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de la Santé israélien. L'État hébreu a lancé sa campagne de vaccination le 19 décembre et plus de 4 millions de personnes ont déjà reçu la première dose. Elles sont près de 3 millions à avoir reçu la seconde. Et la vaccination s'accélère dans le monde. Plus de 200 millions de doses ont été administrées à travers le globe, selon un comptage réalisé par l'AFP, et ces chiffres sont en deçà de la réalité puisque la Chine et la Russie n'ont pas communiqué de données depuis une dizaine de jours. Politique, Frédéric Vidal s'explique mais persiste sur l'islamo-gauchisme. La ministre de l'Enseignement supérieur a réaffirmé que nous avons besoin d'une enquête du CNRS sur l'islamo-gauchisme à l'université afin de déterminer ce qui est éducatif et ce qui relève du militantisme. C'est ce qu'elle a indiqué dans un entretien au journal du dimanche. 600 universitaires ont réclamé sa démission hier. Justice, un gros narcotrafiquant marseillais a été interpellé à Dubaï. Il était recherché depuis des mois. Il est décrit comme l'un des pontes du trafic de drogue à Marseille et dans la région. Il a été arrêté jeudi. Ça pourrait constituer une première en matière de collaboration entre les policiers français et dubaïotes. En Turquie, Erdogan prône une relation gagnant-gagnant avec les États-Unis. Le président turc a indiqué hier soir vouloir coopérer avec le pays, alors même que les deux nations entretiennent des relations tendues. Le dirigeant a rappelé que les intérêts communs de la Turquie et des États-Unis étaient plus nombreux que leurs divergences. Donald Trump va prendre la parole le week-end prochain. Ce sera le premier discours depuis son départ de la Maison-Blanche. Il est prévu dans le cadre du CPAP, la grand-messe des conservateurs américains. Il y parlera de l'avenir du parti et du mouvement conservateur.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, on commence ce flash en parlant du Perray-en-Yvelines. Au vu des conditions sanitaires, la 29e édition du Salon des Arts, qui était prévue du 13 au 21 mars, ne pourra se tenir. Et puis, à Montfort-l'Amaury, une collecte de sang aura lieu au Centre Municipal des Loisirs, mardi prochain, de 14h30 à 19h30, uniquement sur rendez-vous, sur le site mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr. Parlons également des nouvelles dates de dépistage de la Covid-19. Lundi 22 février aux Essarts-le-Roi, place du Marché. Mardi 23 février à Ably, place des Fêtes. Mercredi prochain au Perray-en-Yvelines, place de la Mairie. Jeudi 25 février à Saint-Arnaud-en-Yvelines, place du Champ de Foire. Vendredi 26 février à Rambouillet, place de la Libération. Samedi 27 février au Perray-en-Yvelines, place de la Mairie. Lundi 1er mars aux Essarts-le-Roi, place du Marché. Et mardi 2 mars à Ably, place des Fêtes. Nous parlerons bien sûr des prochaines dates de dépistage dans de prochaines éditions de notre journal. À Vieille-Église, je vous rappelle que la bibliothèque municipale reste ouverte pendant les vacances, uniquement le mardi. Donc l'équipe de la bibliothèque vous attend mardi prochain de 16h à 17h45. Et puis également bibliothèque qui reste ouverte, mais cette fois-ci à Bullion, les mercredis de 16h à 19h, le jeudi de 16h à 17h30, et les samedis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez aller faire votre marché à Bonnel, mais également à Clairefontaine en Yvelines. La météo pour ce dimanche est un ciel qui alterne nuages et éclaircies. Les températures devraient aller jusqu'à 15 à 16 degrés dans la journée. Merci d'avoir suivi ce flash. Poursuite des programmes sur votre radio.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à tous et à tous, en ce dimanche 21 février. Alors on va rester très Essonne. Ce matin, on a vu Frédéric Marie, le triathlète d'Orsay, la semaine dernière, avec aussi Caroline Lagré pour Étampes. Alors ce matin, on va rester sur Brice-aux-Forges. Alors on devait avoir le président de la section moto de Brice-aux-Forges. Bon, il a un petit problème, bizarrement. J'espère qu'il pourra quand même se joindre à nous avant la fin de cette émission. Ce serait bien dommage, à un moment où le sport amateur souffre, eh bien, de ne pas pouvoir parler de son association, mais elle a tenu promesse, c'était la deuxième invitée de cette émission, c'est Solène Bodard, la coach sportive. Solène, bonjour.
Bonjour Philippe. Oui, hein.
Merci d'être venue de Bruxelles-Chauffort. Je vous étiez venu nous parler de votre parcours de sportif de haut niveau au mois d'octobre, qui vous a emmené donc sur un métier de coach sportive, devant oui. ouvrir une salle. Vous n'avez pas pu malheureusement pour l'instant travailler, exercer votre profession. On va en parler en grosse partie de cette émission.
D'accord, pas de souci. Hein,
voilà. Merci. Et puis c'est le 21 février, je voulais souhaiter un anniversaire ce matin.
Hein, ah
c'est
ben
notre
oui.
technicien Guillaume.
Qui, joyeux anniversaire
voilà,
Guillaume.
Qui fête ses 39 ans ce matin, il officie donc tous les dimanches. Alors surtout, vous n'hésitez pas, vous appelez le 01 30 41 15 15 et vous lui souhaitez un bon anniversaire. Voilà.
Oui.
Et très
oui.
bien. Bon, alors, vous, Solène, je l'ai dit, vous ne pouvez pas beaucoup travailler actuellement. Hein, vous étiez venu au mois d'octobre. Vous deviez ouvrir une salle sur Limours. Mm-hmm. Ça ne peut pas se faire. Je suppose que ça devient compliqué.
Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai lancé ce projet qui est un parcours de vie. Et effectivement, j'ai subi aussi, malheureusement, de la lenteur administrative du tribunal des commerces pour obtenir mon CABIS. Mmh. Et je l'ai obtenu vraiment très tard, il y a eu quand même 3 mois de retard. Et à ce moment-là, moi j'avais déjà l'accord de principe de mon prêt pour pouvoir avec mon local faire, tout était prêt, mais on attendait quand même ce CABIS quoi, qui a mis mmh. énormément de temps malgré la situation sanitaire. Et quand c'est arrivé, nous on s'est précipité à faire les travaux, à se dépêcher pour pouvoir ouvrir comme on a pu quoi cette salle. Et du coup, au moment où les travaux se sont finis, on a fait quand même un parcours du combattant. Et
oui, parce que vous étiez venu, je crois me souvenir, le 18 octobre dans l'émission.
C'est ça, hein, c'est ça.
Et il y a eu le confinement peu de temps après, le deuxième confinement qui est arrivé.
C'est
donc,
ça.
Donc du coup, vous n'avez pas pu exercer,
du coup,
puis travailler.
Pu, on n'a pas pu exercer, travailler. Et on a été contraint de fermer. Et administrativement et ça dure quand même. Et moi, dans mon malheur, j'ai pas eu le droit à des aides du gouvernement parce que il fallait en fait démarrer l'activité au 30 septembre. Donc cette date-là nous a quand même porté préjudice parce que malgré qu'on ait un crédit plus un loyer à honorer, on prend pas en compte cette situation quoi. Mm-hmm. Donc on subit la lenteur administrative et en même temps on subit aussi ces décisions, ces lois qui se mettent en place et sans prendre compte des jeunes créateurs d'entreprises qui ont quasiment, on est quand même pas mal à avoir créé cet été, à avoir subi ça. Et on a un peu le sentiment d'être les sacrifiés de la crise en fait. Mmh. Et c'est vrai que bien entendu, il faut prendre des décisions, mais il faut aussi que ces décisions soient aussi avec la réalité du terrain.
Mmh. Donc c'est toujours l'éternel problème.
C'est ça. Hein,
et puis c'est pareil, cette lenteur administrative, elle est particulière à notre pays. On le voit aussi pour les vaccins. On se dit mais c'est incroyable quand même. En Angleterre, on y arrive. En Allemagne, on y arrive. En France, on n'y arrive pas.
Voilà, c'est ça. Et du coup, nous, moi, je parle aussi au nom de beaucoup de salles de sport, beaucoup de collègues à moi qui ont mis la clé sous la porte, parce que voilà, c'est compliqué. On peut pas payer nos loyers quand on n'a pas d'aide et tout. Moi, je me suis quand même battue parce que bon, je suis aussi une athlète. Hein, j'abandonne jamais. Je vais toujours au bout des choses. Et voilà, j'ai quand même la chance d'avoir un bailleur, la famille Martin, qui m'a vraiment soutenue. Et c'est très rare, franchement, faut le dire, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, qui nous a offert les loyers, parce que voilà, au vu de la situation sanitaire, parce que eux aussi, ça leur porte souci. Et nous aussi, moi, ça me fait pas du bien, quoi, de pas pouvoir leur honorer un loyer, parce que c'est aussi leur vie aussi qui est en jeu aussi. Et puis bon, bah, je me suis battue quand même avec ma banque qui voulait pas m'aider.
Et là, ils vous ont aidé quand même?
Oui, parce que j'ai dû gueuler. J'ai dû gueuler.
Ça aussi, c'est incroyable.
Me mettre en colère.
Ça aussi, c'est incroyable. Ça aussi.
Et voilà.
Aussi.
Et voilà. Et c'est de l'épuisement au niveau de l'énergie. Et, je coach un tout petit peu quand même des sportifs de haut niveau ou certaines personnes qui ont un certificat médical. Mais, ça ne suffit pas. En fait, ça me permet juste de survivre. Il y a encore à payer des petits loyers qui ont des petites charges. Comme l'électricité, haute de ma salle, mais ça m'aide pas, quoi, en fait.
Alors, Solène, il y a des vues, il y a des perspectives. Bon, alors, on a parlé de pseudo, peut-être. On a entendu la ministre qui a dit que peut-être certaines enceintes sportives allaient peut-être rouvrir sous conditions. Il y a des perspectives là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois là.
Alors heureusement quand même que les gens ne comptent pas toujours que sur le gouvernement, parce que si on se reposait que sur eux, je pense qu'on va tous crever.
Oui, mais bon, c'est quand même eux qui sont élus pour prendre des décisions quand même.
Et sachant que quand on ferme comme ça administrativement, malheureusement, je comprends que la crise elle est difficile, et à leur place c'est peut-être pas facile de prendre des décisions, c'est compliqué aussi. Mais il faut aussi savoir que il faut aussi derrière travailler quelque chose, parce qu'on peut pas fermer les gens et attendre, parce que nous on était dans l'espoir du vaccin, parce que le vaccin peut-être c'était un espoir pour certains de pouvoir
mais comme ça traîne en plus,
donc on va pas rester à faire du stop and go au quotidien rester comme ça et tuer les gens quoi. Donc heureusement que Décathlon a innové un masque pour permettre aux salles de sport.
Oui, ça c'est ce que j'ai lu prochainement là, les sportifs.
C'est ça.
Avec un masque.
Même les salles de sport. Donc déjà les prototypes sont déjà quasiment ont évolué, et en fait ils vont faire des essais en fait dans des salles et tout pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ils seront prêts au courant du mois de mars. Mais maintenant, ils ont eu l'accord normalement au niveau AFNOR en fait pour l'homologation. Mais maintenant, avec les décisions et tout, donc il faut pas non plus sauter tout de suite quoi. On est obligé d'attendre un petit peu ce que ça va donner.
Ouais, mais donc ça va. Allez, mettons que ça donne au mois de mai. On arrive presque sur les vacances.
C'est ça.
C'est aussi des gens qui vont partir, qui vont pas être là, payer toutes les cotisations. Ça va poser problème quoi.
Exactement. Donc la difficulté, elle est là aujourd'hui. Donc moi je sais que je vis beaucoup de stress, mais je m'accroche. Je suis quand même quelqu'un qui est très optimiste dans ma tête, et j'essaie quand même. J'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément, qui a un travail, donc ça nous permet quand même de vivre comme on peut, au minimum. Mais je peux pas travailler quoi. Je peux pas travailler.
À distance, peut-être un peu sauver la face.
Pour garder un petit peu des liens.
Voilà. Oui, et en plus garder des liens. Voilà.
Et puis c'est aussi une passion, hein. Mon sport est une passion. Donc c'est la passion qui me permet de tenir le coup. Et pas laisser tomber mon projet. Et je suis quand même soutenue moi par des acteurs en fait de ma commune, comme le sénateur Monsieur Gonnet et Monsieur Gérard Huot, qui m'a beaucoup aidé, qui s'est battu, qui a cherché énormément d'aide pour pouvoir m'aider aujourd'hui c'est lui qui a trouvé pas mal de solutions. Parce qu'il me dit que faut pas laisser tomber. Donc je suis soutenue quand même aussi même par la maire de Limours, faut le dire.
Oui, mais c'est important.
Les élus vraiment de Limours et de la communauté de communes, même du développement économique, m'ont beaucoup aidé aussi. Donc il y a un soutien, et j'ai aussi mon réseau d'entreprise, l'autre club, avec qui on fait des visios tous les vendredis matin pour maintenir le lien, pour trouver des solutions, de l'entraide, et aussi trouver des moyens pour pouvoir m'accompagner. Donc le soutien aide aussi à tenir, et ce que les gens font autour. Après c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont pas des communes qui sont soutenues. Moi j'ai des amis qui ont fermé des salles, qui ont mis la clé sous la porte. Il y a aussi des personnes qui ont une situation de suicide, il y a un mal-être qui s'est vraiment installé, et ça faut y penser. Et je sais pas comment. La difficulté c'est qu'on n'a pas de visibilité sur le futur.
C'est ça. Faut faire se vacciner au maximum, le plus possible et le plus vite possible, et après ça repartira. Il n'y a pas d'autre solution.
C'est la solution. Et aussi, je pense qu'il faut aussi travailler aussi. Pas attendre le vaccin, mais je pense aussi qu'il faut vraiment travailler les choses. Moi j'ai entendu, parce que je regarde un petit peu autour de moi ce qui se passe, je lis l'actualité, il y a un groupe de médecins qui parlait aussi des purificateurs d'air en fait en intérieur pour pouvoir aider aussi les restaurateurs et aussi les salles. Donc ça aussi c'est des choses à étudier, à tester. Je pense qu'il faut tester les choses pour ça, parce que de toute façon on ne pourra plus vivre comme avant pour l'instant. Donc on est obligé aujourd'hui d'innover des choses pour trouver des solutions, à voir si ça fonctionne ou pas. On peut pas rester là à confiner les gens et à attendre un vaccin et ne pas travailler des expériences pour permettre peut-être une ouverture certaine surtout les restaurateurs aussi, le monde, l'événementiel.
Oui, alors, voilà. Ouais. Alors, justement, Solène, au mois d'octobre, vous auriez pu ouvrir en respectant des normes oui. sanitaires. Tout était préparé, tout était fait.
Oui.
On aurait
oui.
pu aller dans votre salle,
c'est
éviter
ça.
De se croiser.
Moi, tout a été fait.
Il fallait juste nettoyer les appareils, les engins.
Moi, tout a été fait, sachant que je suis aussi une petite salle. Donc, mm-hmm. je suis pas une grande salle de sport. Donc, il mm-hmm. y a pas mal de petites salles de sport, comme des studios de coaching, mm-hmm. dans des petits villages, dans des petits secteurs mm-hmm. comme mm-hmm. ça. Et nous, on est toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a quand même une limite de jauge de personnes qu'on
oui.
reçoit dans la
donc,
dans notre salle. Et en même temps, on a tout mis en place, c'est-à-dire qu'on a mis tous les normes sanitaires, les gestes barrières, le gel et tout. On nettoie les machines avec tout le nécessaire. Et en même temps, on a aussi quand même, faut pas oublier que nous, les salles de sport, on a des abonnés, on a des adhérents.
Mmh, bah oui.
Donc on a la liste des gens, des personnes mmh, qui sont là. Mmh, donc mmh. On peut avoir la capacité de pouvoir savoir qui est passé, qui a été là, et tout de suite voir qui peut avoir contracté le virus ou autre quoi. Donc je pense qu'on aurait dû quand même nous faire un peu confiance. Et je pense que voilà, la problématique, c'est que on veut trop mettre tout le monde dans le même panier. Au lieu de pouvoir peut-être voir localement ce qu'on peut faire,
bah, ouais.
parce que c'est tout le monde pareil, et du coup bah malheureusement, et puis moi en même temps ce que je trouve aberrant, c'est que on n'arrive toujours pas à faire ce tracé, tester, isoler. On sait jamais d'où vient les virus, d'où ils rentrent, d'où ils sortent. On ferme les frontières au dernier moment, quand tout le monde les a fermées, nous on les a laissées ouvertes. Aujourd'hui, on nous dit que les frontières sont fermées, mais non, il y en a qui partent toujours. Donc à un moment donné, je veux bien
on
comprendre.
On l'a vu cet été, hein.
Bah oui, mais
enfin,
même là,
à Noël pour la Guadeloupe et puis la Martinique,
bah, hein. Voilà.
Oui, oui, on
donc,
pouvait s'y rendre sans problème.
C'est bon, ça.
C'est la Française, mais bon. Est-ce qu'il fallait ouvrir autant les avions?
Voilà. Moi, je jette pas la pierre sur le gouvernement, parce que ça va pas être facile quand même d'être à cette place-là, quand même de prendre des décisions et tout. Mais à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous parler comme à des enfants ou de prendre les Français pour des idiots. On est quand même il faut essayer aussi d'arrêter aussi de mentir, de raconter des trucs ou de se féliciter de quelque chose qui n'a pas été fait. Il faut aussi accepter en tant que même si on est président ou même si on est ministre, on a le droit aussi à l'erreur. Et je pense pas que les Français vont en vouloir ou pas être contents ou autre quand un ministre va reconnaître aussi son erreur quoi. À un moment donné, il faut se positionner de cette manière-là, et parce que là il y a une perte de confiance qui s'est installée. Et aussi, je pense que généralement, un mal-être quoi. Les gens sont pas bien. Les gens sont.
Ouais, c'est anxiogène quoi.
C'est anxiogène.
Dès qu'on parle de maladie, dès qu'on parle de
exactement,
santé.
Exactement.
C'est-à-dire que vous seriez plutôt dire, bah il faut faire avec le virus. On peut prendre, par exemple, ils auraient mis les masques en s'entraînant dans votre salle obligatoirement.
Bah, de toute
on
façon,
peut faire un effort sportif.
Il y a des efforts qu'on peut faire en masque, il y a des efforts qu'on peut pas faire en masque.
Bah oui.
Malheureusement,
c'est
une réalité.
Aussi, hein. ouais.
C'est la difficulté. Donc, de toute façon, moi, je veux bien qu'on ferme, mais c'est bien aussi qu'on trouve des solutions derrière. Et malheureusement, les aides qui sont proposées, la réalité n'est pas vraie. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas le droit à ces aides, qui galèrent. Il y en a qui ont droit à ces aides-là, même il y en a qui ont les aides, mais ça les aide très très plus que ça aussi. Donc il y a des choses qui sont annoncées, mais la réalité n'est pas ça. Donc c'est ce qui est dommage en fait. Donc même les sénateurs du secteur se battent, même eux-mêmes ne sont même pas d'accord sur cette date 30 septembre. Au nom de quoi, par rapport à quoi, faut nous expliquer, parce que il y a beaucoup une entreprise qui va ouvrir, qui va avoir son cabis en juillet. Rarement, à part si c'est un coiffeur ou je sais pas, va ouvrir tout de suite en septembre, parce qu'il y a des travaux qui sont derrière, il y a plein de choses qui se mettent en place, on peut pas ouvrir tout de suite. Donc ça, faut qu'ils en prennent compte, parce que voilà, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile.
Il y a pas un groupement qui s'est créé, des commerçants ou même des tenanciers de salles de sport?
Si, il y avait un groupement qui s'était créé à une période. Donc ils sont allés jusqu'à Bercy gronder un petit peu par rapport à la situation et tout. Donc pour l'instant, il y avait eu des discussions qui ont été mises en place, mais voilà quoi. Moi, je pense pas que je sais pas. Là aujourd'hui, il y a pas de visibilité. Il y a rien quoi. Aujourd'hui, on n'en sait rien.
Dans le meilleur des cas, quoi.
On a juste espoir.
Et septembre.
Voilà, on a juste espoir que ce vaccin. Bon, le vaccin, on ne compte pas trop dessus, nous, les salles de sport. Nous, on est juste en train d'espérer que Décathlon innove
ce
produit.
Ça peut être un des cas aussi que vous demandiez, c'est-à-dire que ne pas rentrer dans votre salle si on n'est pas vacciné. Hein. Ça peut arriver. Hein.
Ça peut arriver. Donc après, moi, je suis pas trop fan du passeport vaccinal. Je suis pas fan. À part Ce que je peux dire, c'est que pour voyager, je pense pas que c'est un problème, parce que pour aller dans certains pays, on nous demande certains vaccins qui sont inscrits sur nos, sur nos cartes de santé, ou des pays tropicales ou Afrique, où on doit se faire vacciner pour y aller. Maintenant, avoir un passeport vaccinal pour pouvoir circuler dans une salle de sport ou un restaurant, c'est pas notre boulot, ça. On n'est pas flics, hein. On a déjà, le travail est déjà très prenant. Un indépendant ou un restaurateur travaille déjà difficilement. C'est compliqué de gérer. Alors, vous imaginez de leur donner le job du flic à contrôler les gens parce qu'ils n'ont pas un passeport. C'est pas possible. Non, moi, personnellement, c'est pas mon boulot. J'ai pas envie de m'amuser à contrôler des gens à l'entrée. Ah oui, bah, vous avez votre passeport vaccinal pour rentrer.
Ouais, mais quelque part, vous êtes aussi peut-être responsable de leur santé, Solène.
Oui,
juridiquement.
On est bien d'accord. Mais il faut aussi se mettre aussi sur le terrain, quoi. Vous regardez même les policiers. C'est pas facile pour eux. Le travail est déjà compliqué déjà d'un policier. Alors vous leur mettez maintenant des contrôles, des attestations, leur faire mettre des amendes et tout. C'est super difficile, hein. C'est un boulot qui est vraiment compliqué aujourd'hui. Donc maintenant, moi, je veux bien qu'ils mettent toutes ces choses en place. Mais dans ces cas-là, du côté du gouvernement, il faut aussi qu'ils fassent des efforts. Moi, le tracé testé isolé, je comprends pas comment on n'arrive pas à savoir d'où viennent les virus, d'où viennent on n'est même pas capable de dire où sont entrés ou arrivés les variants, quoi. Donc c'est vraiment, c'est hallucinant de pas savoir ça. Certains pays le savent. Donc, le tester, tracé, isolé, ils le savent. Nous, on le sait pas. Il y a des variants qui sont du côté du Nord. C'est arrivé. On sait même pas où ça arrive. On n'arrive même pas à trouver le cas zéro, quoi. On trouve pas le cas zéro. Donc, à un moment donné, je suis désolée, quoi. Vous mettez des choses en place, mais il faut que derrière aussi, ça travaille, quoi. Derrière, pour moi, les frontières sont ouvertes. On dit qu'ils sont fermés. Il y en a qui voyagent encore aujourd'hui. Donc, moi, à un moment donné, c'est compliqué, hein, de.
Ouais, parce que nous, par exemple, les journalistes, si on veut faire le Paris-Nice dans 15 jours, il faut faire le test PCR. Sinon, il n'y a pas d'accréditation, hein.
C'est ça. Voilà. Et le problème aussi,
c'est que. Si on veut pas faire, on le couvre et puis on reste à la maison et on couvre différemment.
Et le problème, c'est que chez nous aussi, c'est qu'en France, quand on revient de voyage, on fait le test. Quand une personne a le Covid, quand il est testé positif, rentrez chez vous, allez vous isoler. Mais en même temps, il y a des gens qui ne le font pas. Hein. Voilà, donc s'ils faisaient comme certains pays, vous avez le Covid, il y avait beaucoup d'hôtels qui étaient d'accord, prêts justement à recevoir les personnes pour faire des quarantaines pour les personnes qui étaient atteintes qui étaient positives. Donc moi, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait, pourquoi. On fait pas. Après, j'ai pas très envie de trop de critiquer parce que c'est pas simple. On n'est pas à la place.
Parce que humainement, c'est peut-être aussi une humiliation.
Voilà,
hein. On dit on va devenir la brebis galeuse de
C'est pas facile pour le président. Ouais. Hein, j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui.
Alors, je sais que vous avez aussi interpellé d'autres confrères.
Oui.
La télé, France Télévisions, M6.
Oui, j'avais interpellé.
Pour faire une émission générale sur les difficultés.
J'avais interpellé BFM et tout. Bon, j'ai pas eu beaucoup de retours. J'avais eu des retours. J'ai discuté très longuement avec des confrères de M6.
Oui.
Qui étaient vraiment, vraiment très intéressés sur mon discours. Hein. Ils étaient d'accord. En plus, c'était le sujet du moment. Et
oui, parce que ça pourrait tout à fait passer dans Capital ou Zone Interdite. Hein. Ça, c'est le genre de thème qui.
Voilà, mais après,
qui leur plairait.
Il fallait aussi que la direction accepte ou autre. Bon, après, c'est pas très grave. Moi, le plus important, c'est que ces gens m'ont répondu, quoi. J'ai envoyé, j'ai appelé, j'ai quand même eu la réponse de France Télévisions qui m'a contacté, qui m'a écouté. Donc, même si c'est pas moi qui parle ou qu'ils en parlent, l'information est passée. M6 m'a contacté, on a parlé longuement. Il y a une personne, elle était plus axée du côté de Toulouse. Donc, elle voulait faire partager ma colère sur les confrères de Paris, de la région parisienne. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, avant, on n'entendait pas trop les salles de sport. Moi, j'entendais que les restaurants, les commerçants.
Les boîtes de nuit,
nous, on était un petit peu laissés pour compte.
Maintenant, tout le monde a le même problème. Hein.
Alors que tout le monde est dans le même problème, il faut sans oublier aussi l'événementiel, des personnes qui ont ce genre d'activité. Et nous, on voulait, à un moment donné, qu'on existe, parce que j'avais l'impression que celui qui gueulait le plus fort, c'est celui qui obtenait. Donc, à un moment donné, c'était le sentiment qu'on avait, parce que les grandes hypermarchés, supermarchés étaient ouverts, alors que c'est aussi un cluster, parce que les gens se baladent. Moi, j'allais dans les centres commerciaux et je trouvais des gens qui mangeaient, qui s'asseyaient par terre, qui voilà.
Non, donc, parce qu'il y a quand même des normes à respecter.
Les toilettes sont ouvertes au public, donc à un moment donné, c'est deux poids de mesure. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est bizarrement c'est fermé, et c'est les petits commerçants qui sont ouverts. Bon, je pense que c'est pas comme ça qu'ils vont fonctionner. Je pense qu'il faut trouver des solutions.
Oui. Alors, donc, vous pensez pas quand même que le gouvernement a un peu évolué, parce qu'au départ, on a naturellement et justement priorisé la santé, hein, en confinant tout,
hein,
parce qu'on est quand même à plus de 81 000 morts, c'est-à-dire c'est plus que le Stade de France, ce qui est énorme, hein. Plus que le Stade de France. Aujourd'hui, on a vu qu'on hésite à faire un troisième confinement quand même, on privilégie quand même les entreprises.
Oui, on privilégie, je trouve que c'est plutôt, pour moi, en fait, d'après ce que j'observe, après, voilà, c'est mon point de vue, hein. Alors, chacun a son opinion, son point de vue. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas de vaccin, et que si on confine tout de suite, le problème, c'est que on confine et on déconfine. On fait comment? Il y a quoi après? Alors que je pense que si on avait les vaccins, comme l'a fait Israël, hein, Israël avait les vaccins. Ils ont confiné pour vacciner le plus vite possible. Voilà.
C'est ce qu'avait suggéré le professeur Peloux, hein, docteur Peloux, en disant écoutez, on est confiné, mais quitte à être confiné, on vaccine le maximum
c'est
de
ça.
Monde.
Mais là, moi, je suis pas médecin, je suis pas médecin, c'est pas mon boulot. Mais par contre, j'ai une opinion. Et je pense, pour moi, je pense qu'on n'a pas confiné parce qu'on n'a pas les vaccins. Je pense que c'est surtout ça. Donc et puis je pense que les Français ne sont pas prêts aujourd'hui à accepter un confinement dur. Et parce que ça a été, on a été le pays qui a confiné le plus difficilement des autres pays au mois de mars. Enfin, au mois de mars, on a été durement confiné et longtemps. Et je suis pas sûr que aujourd'hui les gens soient prêts encore à se confiner du genre, parce que sachant que déjà avec les couvre-feux, on a eu le couvre-feu à 20h. Maintenant, on est en couvre-feu à 18h. Donc, il y a plein de choses qui... Et la problématique, elle est là, quoi. Donc, moi, je pense plutôt que si on avait les vaccins, je suis sûr qu'on serait confinés, hein, pour pouvoir vacciner.
OK, allez, on marque une petite pause musicale, un petit break, hein, puis on se retrouve. Bah, du coup, vous allez être avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Hein.
Pas de souci.
OK, allez, on y va.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loix Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
La Bassienne de Menuiserie, c'est votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement. Dans les Yvelines, à votre service depuis 2007. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage. Et même des garde-corps, des clôtures, des verrières d'atelier et des fenêtres de toit, entre autres. Tous nos produits sont réalisés sur mesure et fabriqués en France. Nous proposons également des prestations d'isolation sous les combles et par l'extérieur. Les devis sont toujours gratuits. N'hésitez pas à nous demander le vôtre. Toute notre équipe sera ravie de vous accueillir, de vous conseiller et de vous accompagner dans vos projets de rénovation. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
RVE, vivez votre région. RVE 103.7.
Time that I come near her, I just lose my nerve. RVE 103.7.
Oui, et vous êtes bien sur votre émission préférée de sport, hein. Il est 10h32 minutes. On va continuer avec Solène. Alors Solène, on va rappeler quand même que vous avez un passé de sportif de haut niveau. Vous êtes venu nous en parler. Ça n'a pas été non plus. Vous êtes optimiste pour la suite des événements sportifs, professionnels ou amateurs. Le sport amateur, ça va être compliqué,
hein. Oui. Oui, je pense que il faut rester optimiste parce que les pandémies, il y en a eu, hein, par le passé. Voilà, malheureusement, ça, la crise.
Moi, c'est la première que je connais.
Voilà, mais nos anciens l'ont connu. Ouais. Ils ont survécu à ça. Mm-hmm. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est très difficile, mais il faut rester optimiste et s'accrocher. Mais de toute façon, bien entendu, qu'il y aura quand même des sacrifiés, comme dans toutes les crises.
Oui, parce que il va y avoir malheureusement de l'argent en moins pour bien les dotations sportives. Il va y avoir des événements qui vont. On en a beaucoup voilà. parlé aussi avec ceux qui acceptent de venir à notre micro. Donc en parler, hein, il va y avoir naturellement des sponsors qui vont les lâcher, hein, qui vont lâcher certaines manifestations. Donc il va y avoir quand même des dégâts.
Oui, bien sûr qu'il y aura des dégâts, mais comme dans une guerre, hein, on n'en est pas vraiment.
On va repartir comme après une guerre.
Voilà, c'est ça.
Hein, économiquement.
Économiquement, c'est ce qui va se passer. Et puis il faut pas oublier que les retraites, ça va être compliqué. Il y aura la dette, elle va être assez importante. Donc il y aura des dégâts. Mais je pense qu'il faut rester optimiste quand même.
Oui, parce que ça va aussi obliger peut-être à innover, à travailler un peu différemment, à faire un peu autre chose. On a vu pour certaines entreprises, on parle pour le télétravail par exemple, dans d'autres choses, il y a peut-être certaines choses.
Oui, bien sûr, il y a des entreprises qui se numérisent, mais après c'est pas tout le monde, hein. Donc il y a des entreprises qui ne peuvent pas fonctionner dans le numérique.
Bon, à un moment donné, il y a des métiers, c'est pas possible.
On parlait de click and collect. Click and collect, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Les restaurateurs, oui, mais c'est pas toutes les entreprises qui peuvent fonctionner comme ça. Maintenant, je pense que oui, effectivement, ce qui va se passer, c'est que ça va être très compliqué et faut garder espoir et faut se dire que bien entendu, il y aura bien entendu des sacrifiés et c'est ça qui est difficile.
Est-ce que l'avantage, ça va pas être aussi de mutualiser ces moyens? Il va peut-être y avoir certains groupements dans les communes, dans les villages, comme ça se fait déjà pour certains sports.
Je pense que c'est ce qu'il faut, hein, parce que
des clubs de foot, de rugby ou même d'athlétisme que vous avez connus, qui groupent leurs moyens.
Et puis c'est vrai que là, les associations souffrent. Les associations souffrent énormément. Il y en a qui laissent tomber. Il y a des présidents qui ferment.
Oui.
Voilà, nous.
Alors il y a des présidents qu'on contacte qui veulent pas venir, bizarrement, paradoxalement, alors que c'est l'occasion de venir, parce que c'est aussi une façon de garder,
garder un lien avec ses pratiquants, et puis de savoir aussi qu'on existe et qu'on souffre, et peut-être que derrière on peut essayer de trouver des moyens aussi dans les collectivités de travailler sur des projets pour pouvoir les sauver. Il faut vraiment sauver nous, en tout cas à Brive-sous-Forge, on s'est quand même on s'est réunis et on va se battre pour permettre aux associations de garder nos associations. On va pas les laisser tomber. Donc c'est notre challenge à nous, c'est vraiment de tout faire en fait pour ne pas perdre nos associations. Parce que c'est vraiment très important d'avoir des associations. Donc
et tout sport confondu.
Tout sport confondu. Ouais. Ouais.
C'est-à-dire que bon, il faut être alors carrément omnisport et puis dire allez une section, elle va avoir un petit peu moins de dotation pour pouvoir permettre à l'autre de l'avoir, quoi.
C'est ça.
Histoire de vivre. Sinon.
Nous à Brice, on bien entendu dedans, on va pas laisser tomber avec mes collègues de la collectivité, de la commune, de la mairie. Voilà, on s'y est attelé. On a décidé que vraiment, on fera tout notre possible de trouver des moyens de pouvoir vraiment permettre à nos associations de survivre et de vraiment les aider, parce que sans association dans une commune, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est la vie.
On l'a dit, hein, au mois d'octobre quand vous êtes venu, la base du sport, c'est les clubs amateurs, c'est le bénévolat.
Voilà, hein, le professionnel.
Tout sportif a commencé dans un club amateur.
Bien sûr.
Il a été encadré par des bénévoles.
Exactement. Et que les fédérations n'oublient pas aussi que c'est les associations quand même qui permettent à ces jeunes ou à ces athlètes de haut niveau d'exister, d'y arriver, parce qu'ils sont passés tous à travers des associations. Donc il faut vraiment se battre et faire le nécessaire quand même pour leur permettre en fait de durer et de les aider quand même à s'en sortir, quoi. C'est très très important, parce que sinon c'est la perte du sport. Même on est dans une association sportive, on devient amateur, ensuite certains deviennent sportifs de haut niveau. Donc ces pépites viennent de là. Il y a des petites associations, donc ça, faut vraiment pas l'oublier. Et c'est vraiment très important de s'y atteler, quoi.
Et devenir un pays de sport, ne faire que du sport sans compétition aussi, c'est une bonne chose. Mais... comme le disait justement Tony Estanguet la semaine dernière dans l'interview qu'on a donc diffusée. Hein, il aimerait que les Français deviennent véritablement un pays de sport à l'orée de 2024.
Mais bien sûr, il faut parce que le sport, c'est pas non essentiel. Hein. C'est très essentiel le sport. Hein. C'est important.
Même pour la tête.
Même pour la tête. Ouais, c'est une gymnastique. C'est de l'endorphine. Ah, ouais. Ça aide aussi à pouvoir se reconstruire. Après, effectivement, il y a un côté, les gens qui n'aiment pas faire du sport qui ont d'autres activités, mais il y a un côté aussi. Il faut pas oublier que le sport. Certains jeunes s'en sortent par le sport, au travers
sûr,
du sport.
Bien sûr.
Et il faut qu'on arrête en France de mettre de côté le sport. On a l'impression en fait que le sport ne sert à rien, quoi, en fait.
Ça change un peu quand
oui,
même.
Oui, ça commence à changer.
On voit quand même
avec
qu'on
le temps.
Faire, ouais, on sait qu'avant, les sportifs, soi-disant, ne faisaient pas d'études, ce qui est complètement faux
c'est
maintenant.
Faux,
hein,
c'est
complètement
faux.
Faux, hein, on
y a,
le voit.
Y a,
hein.
y a,
ah, oui,
y a,
oui, oui. Et dans tous les sports.
Il y a les pôles espoirs qui sont là.
Dans tous les sports. Hein.
Voilà, qui ont créé des cursus de sport-études, 50% sport, 50% école. Aujourd'hui, moi, j'ai fait du sport-études, hein, donc, j'étais en pôle espoir. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que c'était une génération qui était autre. Aujourd'hui, quand même, ils ont fait mieux. Et les jeunes maintenant sortent de là avec des diplômes. Et il y en a qui font le double cursus et il y a de l'accompagnement. Et voilà, donc il y a les fédérations font quand même le nécessaire. Les pôles, les crêpes font quand même ce qu'il faut. Donc
on
ça
a
commence
eu Michel Godard il y a trois semaines, hein, quand
voilà,
parlait d'ailleurs.
Il y a un boom. Donc il faut vraiment qu'en France maintenant on essaye aussi comme certains pays de promouvoir encore plus le sport quoi. C'est vrai effectivement il y a du progrès parce que moi dans ma génération c'était pas comme ça, on galérait un peu plus quand même. Aujourd'hui je trouve que les jeunes galèrent un petit peu moins. Mon athlétisme nous c'était un sport qui était assez pauvre aussi. Donc maintenant on commence quand même à mettre certains moyens, à trouver des solutions et je trouve que ça évolue mais pour moi, pas suffisamment. Bon, là, on est en période de crise. Bon, la crise doit nous permettre aussi de réfléchir autrement. C'est à ces moments-là, justement, qu'on doit commencer à réfléchir pour l'avenir, je pense. Donc, cette crise-là, faut qu'elle nous permette de voir les choses autrement et de prendre en compte aussi qu'il y a certaines choses qui sont vraiment importantes, quoi. Donc, notamment le sport, parce qu'on a bien vu que les gens ont souffert du manque de sport.
Ouais. Alors justement, le fait de faire du sport ou d'avoir fait du sport de compétition ou d'en faire, on a une autre approche par rapport au virus. Finalement, c'est peut-être moins anxiogène pour un sportif et une sportive.
Oui, c'est moins
anxiogène.
Parce
qu'on est obligé de se battre. On sait que
Oui, bah c'est vrai que bon, ça c'est vrai
on a
que
regard moins,
on
moins,
a regard ouais. moins effectivement, on en a peur quand même.
Oui,
on en a peur quand même, mais c'est vrai qu'on a regard moins, pour utiliser le terme, on souffre moins de ça quoi par rapport à certaines personnes qu'on a vraiment peur, qui stressent.
Ouais, c'est un adversaire comme un autre. Quoi, c'est ça.
C'est vrai qu'effectivement on le prend différemment, c'est vrai. Et puis nous les sportifs de haut niveau qui s'entraînent actuellement. Ouais. Utilisent vraiment les gestes barrières, les choses sont vraiment mises en place.
Bon, même s'ils passent pas à travers, mais enfin, il y a pas trop, c'est pas trop grave pour eux. Hein.
Non, il y en a plein qui l'ont attrapé.
Il y a pas eu de décès.
Il y en a plein qui l'ont eu.
La transpiration, c'est les gouttes.
C'est exactement ça.
Alors ça va être compliqué aussi pour le sport professionnel.
Ah oui.
Hein, parce qu'on parle du sport amateur, mais on sait qu'ensuite le sport amateur aussi dépend indirectement
du sport professionnel.
Oui. Ça va être compliqué aussi.
Bah oui, ça va être compliqué, hein, parce que là même au niveau financier, là les stades sont vides, y a plus personne qui vient voir les compétitions, donc c'est une perte quand même en termes de niveau économique, par rapport à tous les sports. Après maintenant il faudra qu'on voit aussi que tout n'est pas lié au droit TV et qu'il y a aussi autre chose derrière. Les stades sont vides. Donc là, c'est
Ah bah le foot, t'as vu que il était en grosse partie lié au droit TV. Et il a vu les difficultés que ça pouvait aujourd'hui.
Ça a mis le football dans une très très grosse difficulté et ça va permettre aussi de réfléchir que on ne peut pas tout mettre dans les droits TV.
Oui. Et puis finalement, il y a peut-être pas un train de vie trop élevé dans certains sports. Ça va peut-être fatalement obliger à.
C'est ça.
bah à retomber dans des, sur des limites, j'allais dire plus raisonnables. Quoi.
J'espère qu'il y en a qui vont réfléchir à ça, justement, qu'il y a des salaires un peu élevés. Quoi, et que, moi, j'ai trouvé ça très bien au niveau du football de demander cette diminution de salaire.
Certains clubs l'ont fait.
Certains clubs l'ont fait, d'autres non. Je trouve ça vraiment exagéré de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir fait l'effort, parce que c'est pas une perte de 5000 euros ou autre qui effectivement, comme on l'a dit, qui vont les tuer. Donc, c'est dommage quand même, en période de crise comme ça, difficile, de pas accepter en fait cette diminution de salaire.
Oui, puis c'est une forme de solidarité quand même. Exactement. Solidarité par rapport aux administratifs qui travaillent dans ces clubs.
Bien
mais aussi solidarité vis-à-vis des supporters qui s'enseignent à prendre des abonnements.
Parce que les abonnements, surtout effectivement, sur certains clubs, les abonnements sont archi chers quand même. C'est dommage de pas avoir cette solidarité par rapport à leurs supporters, quoi, qui payent qui ont pas forcément les moyens, qui viennent payer des abonnements excessivement chers pour justement regarder ces matchs. Et effectivement, en termes de solidarité, ils auraient quand même pu accepter la diminution de ces salaires.
Surtout que c'est des diminutions temporaires. Hein.
Exactement.
C'est bien dit. Hein.
Exactement. C'est ce qui a été dit. Hein. Mm-hmm. Donc moi, je félicite vraiment, je tiens mon chapeau aux clubs qui l'ont fait.
Bon, on a pu quand même maintenir les très grands événements.
Oui.
Hein, les différents championnats, les Coupes d'Europe,
exactement,
le Tour de France, Roland-Garros, même si on l'a fait à des dates, le tournoi de destination, même si on les a fait à des dates un peu
différentes. D'ailleurs,
un peu
moi, je tiens à faire coucou à la Fédération Française d'Athlétisme. Oui. Hein. Il y a les championnats de France élite en ce moment, donc qu'on a pu les maintenir, et c'est bien pour nos jeunes qui préparent ces gros championnats et qui sont actuellement en train de courir au championnat de France élite. Donc.
Les Jeux Olympiques, ils auront lieu.
Lesquels?
Tokyo, nous, bah, hein, 2024 aura lieu.
Bah oui, normalement c'est maintenu pour le moment.
Non, mais parce que bon, il y a certains débris qui courent. On n'imagine pas ne pas avoir les Jeux.
Bah,
quoi.
Si on n'a pas les Jeux de Tokyo là, ça va être chaud. Hein.
Oui, c'est-à-dire chaud pour des sportifs qui, malheureusement, qui mettront peut-être un terme à leur carrière.
Mais il y en a qui ont mis déjà un terme à leur carrière déjà. Il y en a certains déjà pendant cette pandémie là.
Ça veut dire qu'ils y croient pas.
Bah, c'est même pas une question de pas y croire. Vous savez, c'est très difficile de préparer des championnats. On s'entraîne dur, on met de côté, ce sont des sacrifices de vie.
Oui, non, ils croient pas qu'il va y avoir justement cette échéance.
Non, c'est
qui sera la toute dernière pour eux. Ou
je
pour
pense
elles.
Que c'est même pas la problématique de l'échéance, c'est la problématique de la préparation qui est lourde.
Oui.
Et qui est compliquée parce que avec de jongler avec le virus et la préparation. Psychologiquement, c'est très difficile, et quand c'est incertain, il y en a certains qui ont pas envie de continuer, qui mettent fin un terme à la carrière. Faut comprendre parce que c'est compliqué, parce qu'on sait pas comment le corps se prépare, et en coup on va nous dire on peut pas, faut modifier, faut s'adapter. C'est pas simple. Moi, je comprends. Je comprends certains qui arrêtent. Je comprends totalement.
Ouais. Bon, de toute façon, on va le savoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais des jeux avec des normes sanitaires, des restrictions de public, même à huis clos, c'est pas grave, c'est des Jeux Olympiques, bon, ça n'a pas la même saveur, reste quand même le terrain, ça reste le terrain quand
ça
même.
Ça reste le terrain, effectivement, oui, ça reste le terrain.
Ouais.
Donc, j'espère que ça. Vraiment, je croise les doigts que ça ait lieu, hein. Donc, j'espère. Que ça ait lieu, parce que si c'est encore annulé.
Oui, là, ça serait quand même un énorme événement. Il n'y a que pendant l'après-guerre qu'on a annulé des Jeux Olympiques.
Hein. C'est ça.
Il n'y a que pendant la guerre qu'on a annulé des Jeux. Ce serait quand même. Là, il y aura aussi des problèmes financiers,
des partenaires qui vont lâcher,
des sponsors. Ne parlons pas des droits télé, Solène.
Effectivement. Il y a beaucoup de partenaires qui ont investi dans ces jeux. Et je pense que déjà, il y en a qui avaient déjà lâché déjà quand ça avait été repoussé. Donc, si on annule ou on repousse encore, financièrement, ça va être très compliqué. Et là, vraiment, j'espère qu'on fera le nécessaire que ça ait lieu. C'est justement pour ça que le vaccin, faut faire le nécessaire sur ce vaccin, quoi.
Et peut-être qu'on va obliger les sportifs à se vacciner.
Oui, je pense qu'on va obliger les sportifs à se vacciner. Il le faut de toute façon.
Oui, parce que, par exemple, Tokyo qui va avoir lieu en 2021, on aura les serviettes de 2020, on aura les écharpes 2022. De 2020. Mais je veux dire, on n'a pas changé.
Non,
parce que ça coûte énorme.
Oui, mais on peut pas changer.
Oui, c'est énorme. 2022, c'est Pékin pour le jeu d'hiver.
On a juste repoussé à 2022, mais pour garder, en fait, l'histoire fin de 2021 quoi. Bah oui, ça coûte cher,
c'est
on peut
énorme,
pas,
hein, tout
on peut pas modifier, c'est compliqué, ça fait c'est un coût financier monstrueux, donc on sera obligé d'avoir les affichettes de 2021 quoi.
Bon, 2022 ça sera ensuite Pékin pour les Jeux d'hiver.
C'est Jeux d'hiver à Pékin, hein, voilà.
Ouais. Et puis 2024.
Depuis 2024, ça sera chez nous.
On attend tous ces rendez-vous.
Voilà, nous à Brice Touforge.
Pas,
hein.
pas terre de jeu, Brice, quand
non,
même.
Non, non, non.
Hein. Ouais. Et le sport féminin.
Alors, le sport féminin.
On en est où? Parce que dans cette crise, est-ce que ça a évolué un peu? Ça a changé aussi un peu?
Le sport féminin, bon, dans cette crise, les choses évoluent doucement, mais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font le nécessaire, en fait, pour permettre aux femmes sportives d'exister, d'être là et de mettre les moyens pour qu'elles puissent pratiquer. Et je pense notamment au magazine Women Sport qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre en place un petit peu les femmes à l'honneur, donc mettre vraiment les femmes à l'honneur, les femmes sportives à l'honneur. Donc c'est une bonne chose, ça nous permet aussi de voir que il y a certains sports qu'on connaissait pas, que des femmes pratiquaient et tout, et aussi cette problématique aussi de salaire, donc il faut se battre aussi sur ça, parce que il y a un écart monstrueux entre les hommes et les femmes.
Ah bah ça se voyait pour le tennis, je crois que on gagne pas la même somme si on gagne voilà. Roland Garros ou Melbourne,
c'est ça,
pour une femme que pour un homme.
Exactement.
C'est quand même incroyable, mon femme.
Donc je pense que les choses avancent, mais il faut plus encore. Je pense qu'il faut encore plus, et il y a pas mal de femmes même dans les fédérations qui sont voilà en haut et qui font en sorte que les femmes vraiment soient à l'honneur. Et c'est bien qu'elle soit à l'honneur, ok, mais faut aussi que derrière, voilà, qu'elle puisse vraiment le voir sur le terrain et le voir aussi dans leur salaire.
Ouais, alors, bon.
C'est ça. Après,
on sensibilise quand même un peu plus depuis quelques temps.
Non, bah,
pas
si,
un peu plus.
Moi,
on voit le foot féminin, on voit
on est dans une belle génération quand parce que c'est une génération aujourd'hui. Le football féminin a beaucoup évolué. Les matchs sont là. L'équipe de France féminine, franchement, elles sont là.
Oui, la Coupe du Monde a été un beau succès. L'équipe de France est arrêtée en quart.
Mais c'était bien. Ça a été un boom, quoi, parce que ça s'est jamais passé comme ça, surtout chez nous en France, quoi. Et les gens vraiment se sont intéressés. Le handball aussi, hein.
Oui, bien sûr. Elles ont été championnes d'Europe.
Voilà, c'est ça. Donc,
Il y a le basket qui va régulièrement en finale. Est-ce qu'il manque pas quand même une grosse icône? Comme Manodou, par exemple, comme Pérec, qui ont été des grosses icônes. Si, il y a la judoka, qui est une belle icône. Annie Bagnou.
Bien sûr. Ça va arriver.
Parce qu'on s'identifie fatalement aussi.
Oui, on s'identifie, mais.
On a les championnats mondiaux de ski alpin. Actuellement, il y a eu aussi des skieuses le passé qui ont
été. Les générations évoluent aussi, donc faut laisser le temps. Et puis, comme on dit, les icônes vont, ça vient. Et puis aussi, on est dans un pays aussi, on n'est pas, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans certains pays où, il y a tous ces moyens-là au niveau du sport, parce qu'on n'a pas autant de moyens dans le sport. Faut plus de moyens pour les femmes aussi pour pouvoir.
Oui, non mais les jeunes, elles veulent ressembler fatalement à ces icônes.
Bien sûr.
Que ce soit chez les garçons.
Moi j'ai fait l'athlétisme parce que j'étais fan de Marie-José Pérec.
Voilà.
C'était mon idole.
Ouais, ouais.
Et Jonathan Edwards, le goéland. C'était mon idole, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait de l'athlétisme.
Bien sûr.
Donc on s'identifie toujours à des stars, donc il faut laisser le temps. Moi je pense qu'aujourd'hui ça a bien évolué, il va y avoir beaucoup de stars, quoi, des jeunes qui vont vraiment
Oui, et puis bon, c'est aussi
exploser.
L'évolution de la société,
c'est ça.
On se bat pour que la femme ait une meilleure considération sociale dans la société.
Oui, c'est un peu mon combat, parce que moi j'ai un blog où je tiens justement sur mon site internet,
comme beaucoup de femmes, je reconnais beaucoup qui ont le même combat que vous,
j'ai un site internet qui s'appelle solenebaudard.fr, où vous allez retrouver des portraits de femmes, où j'ai mis la place de la femme dans les métiers du sport, et c'est pas que des portraits de sportifs de haut niveau, c'est aussi des portraits de femmes qui ont fait des études de préparateurs physiques ou de psychologues du sport, qui ont aujourd'hui au travers, ou préparateurs physiques qui ne sont pas forcément passés par un sport de haut niveau, qui ont pratiqué le sport, qui ont aimé, et qui se sont mis à étudier et à travailler ce sport, et qui sont maintenant devenus des préparateurs physiques dans des clubs pro, au tennis, ou des psychologues du sport, justement. Et moi, je suis admirative de ça, parce que faut le dire, c'est pas que les sportifs de haut niveau, il y a aussi d'autres personnes, qui des amateurs, qui sont vraiment fans de sport, et dans leur propre sport, qui vraiment font le nécessaire pour pouvoir accompagner d'autres sportifs de haut niveau, quoi.
Eh ben, justement, on va écouter la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale, et ensuite on va en parler, parce que je crois que vous avez fait un petit sujet sur une jeune fille qui fait du taekwondo
à Brice-aux-Forges. En espérant que sa maman l'écoute. Hein.
Voilà, ben si, elle écoute. Allez, on y va.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Yeah.
Voilà, c'était une BD d'un peu funky. Solène, oui. Un petit message au présent qui n'a pas pu venir, du motard, c'est dommage.
Oui, bah oui, c'est dommage. Hein, j'aurais pu faire connaissance ouais. avec lui, mais bon, on lui fait coucou, je passerai le voir hein, au club de moto pour lui faire un petit coucou quand même.
Voilà, parce que vous écrivez aussi justement sur, vous l'avez dit, sur des gens qui sont d'associations, pas forcément des sportifs, sportives et sportifs de haut niveau. Non, et il y a eu aussi un article, là, sur un jeune du taekwondo de Boussouzange.
Ah oui, oui, effectivement. Hein voilà, la commune m'a missionné.
Oui, c'est bien, c'est bien.
pour écrire en fait ouais. l'article d'une jeune brissoise de ouais. 15 ans. Mm-hmm. Voilà, qui s'appelle Inès Gire. Hein.
Ouais. Bon. Donc ça fait une belle promo pour le sport amateur et pour le sport féminin.
Voilà, c'est au taekwondo. Mm-hmm. C'est une jeune
qui. C'est un club qui a toujours bien fonctionné sur Brice. Hein.
Voilà, ouais. c'est une jeune fille qui pratique du taekwondo et j'ai eu vraiment le plaisir de la rencontrer avec sa maman. Pour faire son article, hein, des personnes très sympathiques et des travailleuses, parce que sa maman aussi est une ancienne sportive de haut niveau. Hein, elle a fait les mondiaux sur taekwondo, donc c'est pas personne. Hein.
Faut pas l'embêter alors.
Faut pas les embêter, hein, la famille. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est une famille de sportifs et Inès effectivement, elle habite à Brix-sous-Forges. Mmh. Et c'est une jeune fille au mental qui a un sacré mental. C'est une travailleuse et qui a de l'envie. Et elle a multiplié en fait les médailles nationales et internationales et pour intégrer en fait un pôle France d'expertise et de performance au Krebs de Strasbourg. Mmh. Voilà, au Krebs de Strasbourg. Donc voilà, c'est bien pour elle. Donc c'est une jeune fille qui a des envies voilà des JO et tout.
Très bien. Eh ben, c'était une belle fin. Merci Solène d'être venue participer à cette émission donc ce matin. On va encore féliciter notre ami Guillaume pour que
c'est l'anniversaire.
Voilà. Guillaume. Et puis maintenant il va pouvoir goûter le champagne. Hein. Voilà.
Bah oui, on va boire le champagne. Allez, bon dimanche
à toutes et à tous. Merci. Merci. Puis on se retrouve nous la semaine prochaine 10h 11h. Bon dimanche et puis restez nous fidèles tout au long de cette semaine sur notre antenne. Et puis Solène, on va rester optimiste. Vive le sport.
Oui, hein. Vive
voilà.
le sport.
Voilà, très bien, bon dimanche.
Actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, le vaccin Pfizer efficace à 95,8%. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de la Santé israélien. L'État hébreu a lancé sa campagne de vaccination le 19 décembre et plus de 4 millions de personnes ont déjà reçu la première dose. Elles sont près de 3 millions à avoir reçu la seconde. Et la vaccination s'accélère dans le monde. Plus de 200 millions de doses ont été administrées à travers le globe, selon un comptage réalisé par l'AFP, et ces chiffres sont en deçà de la réalité puisque la Chine et la Russie n'ont pas communiqué de données depuis une dizaine de jours. Politique, Frédéric Vidal s'explique mais persiste sur